Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre émission 90 minutes info. On va évidemment lancer le débat juste après. Le point sur l'actualité en compagnie de Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Allez, un petit faux départ pour commencer, c'est pas grave, ça fait du bien. On va tout de suite se mettre dans l'ambiance du débat. Avec vous, Jean Messia, bonjour. Merci bonjour. De nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce plateau. Ludovine de la Rochère est là également. Bonjour, bienvenue. Et puis Jean-Michel Fauvergue.
Bonjour.
On a beaucoup de thèmes d'actualité. Aujourd'hui, à commencer par ce pourcentage sur l'insécurité dans les transports. On en parle jour après jour à la faveur de faits divers malheureux. Maintenant, on a un petit retour sur les chiffres. On sait que en France, depuis 2016, c'est-à-dire grosso modo sur la période des 6 dernières années, la délinquance dans les transports en commun représente désormais 5% des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie nationale, toutes atteintes confondues, 3% des mis en cause chaque année. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ces questions avec Amaury Bucaud du service police justice. Alors, on a un sujet à vous proposer avant de retrouver Amaury pour l'analyse des chiffres, avec un témoignage. Le témoignage d'un agent de la RATP qui, lui, évidemment, est aux premières loges de ces agressions du quotidien. Écoutez ce reportage mis en lumière par nos équipes.
L'augmentation de l'insécurité, cet agent de la sûreté de la RATP la constate tous les jours, depuis 10 ans, sur le terrain.
J'ai vu une augmentation, une banalisation de la violence au sein des transports. Donc on voit de façon récurrente de plus en plus d'agressions des machinistes, l'agression de jeunes femmes. Malheureusement, les gens autour ne réagissent pas forcément, donc elles se sentent souvent seules.
Collier, montre, bracelet, sac à main sont aussi la cible des agresseurs des transports en commun.
Il y a beaucoup aussi maintenant de vols à l'arraché. Les auteurs maintenant n'hésitent plus à porter des coups, mettre des coups de gazeuse, menacer avec des armes, etc. Ils n'hésitent plus du tout.
Parmi les agresseurs, un profil revient particulièrement, explique cet agent de la région parisienne.
C'est souvent des personnes immigrées, souvent clandestines même, des mineurs clandestins isolés.
Le recours à la police nationale, seule habilitée à effectuer certaines démarches, est alors nécessaire. Mais il est parfois malheureusement insuffisant.
On va interpeller la personne, on va faire appel à l'effectif de police. L'effectif de police va se déplacer, va essayer d'avoir une identité. Et malheureusement, ils ne peuvent pas emmener tous les individus qu'on contrôle pour une vérification d'identité qui dure 4 heures.
Ce problème le dépasse, cet agent en a conscience. Il en éprouve parfois un sentiment de découragement.
Ludovine de la Rochère, évidemment, c'est difficile de décortiquer ces chiffres année après année, mais enfin globalement, on voit bien cette tendance à la hausse. Et surtout, pour ce qui est des violences sexuelles, on l'a encore vu malheureusement ces derniers jours, dans des bus, des adolescentes qui se font agresser, je crois, du côté de Versailles. J'ai lu ça hier ou avant-hier. Ça fait quand même plus 32% dans les transports en commun et 33% tous lieux confondus. C'est une tendance lourde, on le voit bien,
c'est
même
considérable.
À Paris. Dans la
Alors,
rue.
C'est évidemment considérable. Alors, il y a peut-être une partie de cette croissance qui est liée au fait que la parole se libère, probablement. Il est peut-être moins difficile aujourd'hui pour une femme d'aller au commissariat, de déposer une plainte. Elle sera peut-être prise plus sérieusement en compte tout de suite. Donc, ça peut expliquer une partie de cette augmentation. Mais pour ma part, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin sur ce sujet-là, je ne pense pas que ce soit la seule explication. Je pense que malheureusement, il y a une hausse effective des faits de délinquance, d'agression, de vol, d'attaque et de violences sexuelles en l'occurrence. Et d'ailleurs, on en a des témoignages quotidiens autour de nous, à vrai dire. Et j'ajoute une chose, c'est que dans les transports en commun aujourd'hui, vous avez souvent des personnes, par exemple, qui téléphonent, vous savez, en FaceTime, comme ça. On a droit à la conversation très fort. La personne qui parle dans son téléphone et la personne qui est dans le transport en commun. Ce sont souvent des personnes apparemment qui ont une éducation différente des habitudes françaises, j'en sais rien. Mais si on fait une remarque, ça ça peut devenir un drame, ça peut devenir très violent, très rapidement. Donc, et en plus, l'effet induit d'une violence très présente.
D'accord, donc tout peut partir d'une forme de provocation
C'est l'une des conséquences.
Jean Messier, à votre lecture de ces chiffres, plus 32%, enfin, je veux dire, quand même, il faut se rendre compte, un tiers de plus en l'espace de 4-5-6 ans.
Vous avez vu ce qu'a dit le machiniste que vous avez fait témoigner là. Il a dit que dans l'écrasante majorité des cas, les profils des agresseurs, ce sont souvent des immigrés et très souvent des clandestins. Ce sont ces mots. Donc voilà, il n'y a pas de secret, si vous voulez, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'on ne veut pas traiter le mal à la racine, c'est-à-dire stopper l'immigration, en tout cas certaines d'entre elles, on se retrouve en aval avec une insécurité qui progresse. Voilà, ce sont des comportements de prédation, même sans nier l'exemple que vous avez donné, madame, mais globalement, c'est quand même un comportement de prédation, c'est-à-dire de prédation par le vol, par la captation de ce qui n'est pas à eux, et un phénomène de prédation sexuelle, puisqu'en fait, beaucoup de ces immigrés, ou en tout cas de ces immigrés clandestins, se comportent comme en terrain conquis, selon les traditions ancestrales. Quand on conquiert un territoire, eh bien, on conquiert aussi ses femmes. Voilà, c'est exactement ça qui se passe, et malheureusement, je ne pense pas que le gouvernement, et que le ministre de l'Intérieur en particulier, et pris la mesure de ce qui se passe véritablement sur notre territoire par rapport à ça, parce qu'il a beau citer les chiffres et mettre les liens.
Alors pour l'instant, ils sont sur la traque du crack, si vous me permettez l'expression, puisqu'ils nous disent dans un an, enfin c'est Laurent Nunez lui-même qui le dit, on aura éradiqué le trafic de crack à Paris.
Oui, enfin, si c'est exactement comme ils ont éradiqué les SDF à Paris, comme le promettait Emmanuel Macron et les sans-domicile fixe, on voit ce qu'il en est. Donc vous savez, les promesses ne cachent que ceux qui les entendent.
Jean-Michel Fauvel, je vais me tourner vers vous dans un instant, mais Amaury Bucaud qui a réalisé ce reportage, on vous a vu d'ailleurs dans cet entretien avec cet agent de la RATP, juste pour avoir un petit peu de recul sur ces chiffres et les analyser peut-être un peu plus finement, quelles sont les tendances lourdes? On parlait à l'instant des violences sexuelles. Tout cela s'inscrit aussi dans un contexte, on appelait ça pudiquement incivilité, mais maintenant d'agression de chauffeurs de bus et de tramway également. Hein.
Alors moi, pour revenir peut-être d'abord sur le rapport que vous me demandiez, très rapidement, hein, donc 122 000 victimes dans les transports en commun en 2021, donc c'est 338 victimes par jour, hein, si on calcule par année, par les jours de l'année, et donc c'est 4% de plus que l'année dernière, mais en fait c'est très compliqué parce que ce sont les chiffres de l'année 2021 qui sont comparés à ceux de 2020, et qui sont en fait deux années marquées par le Covid et donc
des confinements. Mais une baisse mécanique.
Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2019, 2018, 2017, tout ça, il y a eu une explosion de la violence. Et donc la question dans les transports en commun, pour vous dire par exemple, en 2019, c'était 160 000 victimes, soit 444 victimes par jour. Donc c'était vraiment plus important qu'encore cette année. Et la question, c'est de savoir finalement, est-ce que cette évolution, cette progression, on va revenir finalement à des chiffres comparables à ceux de 2019, ou est-ce qu'on va rester?
Oui, en gros, il y a une hausse, mais qui est moindre par rapport à celle qu'on observait avant. Exactement. Et il faudra voir
mais dans un an. Ce sont les chiffres de 2021, il y a eu une période de confinement en 2021.
Jean-Michel Fauvert, qu'on n'a pas encore entendu. Je rappelle que vous avez été patron du RAID. Donc les questions de sécurité, vous les connaissez bien. Ça vous surprend? Est-ce que la sécurité ou dans les gares, dans les parce que les transports, ça englobe tout, hein. C'est pas seulement les transports franciliens.
Ce sont les transports en commun.
C'est que pour le transport en commun.
Alors c'est national, mais c'est les transports en commun. On ne parle pas de.
D'accord.
Les transports de tous les jours, en fait.
Est-ce que la sécurité vous semble adéquate?
Alors il faut analyser les choses dans leur globalité. Si on analyse les chiffres de l'insécurité dans leur globalité, on voit que l'insécurité depuis des années est soit étale, soit baisse. Parce que le gros contingent de la sécurité, vous avez par exemple les vols avec armes qui ont baissé, les vols de voitures, etc., etc. Mais vous avez effectivement des items qui montent et qui montent de manière importante. Les vifs, les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes qui montent parce que la parole se libère. Parce qu'aussi, les policiers font de plus en plus d'affaires là-dessus, comme la parole s'est libérée. Il y a des renseignements, ils font des affaires. Et quand ils arrêtent un prédateur, mécaniquement, il retrouve plusieurs faits qu'il a commis. Ça, c'est la première augmentation d'un item important. La deuxième augmentation d'un item important, ce sont ces violences faites aux gens qui ont tout type d'autorité, y compris aux chauffeurs de bus, aux chauffeurs de métro, aux policiers, aux gendarmes, aux élus, aux professeurs, etc. Et ça, aux pompiers, à tout ce qui représente, aux journalistes aussi, à tout ce qui représente en soi peu un peu l'autorité ou la...
Je suis pas sûr qu'on représente quelque chose d'autorité, mais enfin bon.
C'est un chiffre qui augmente de ce point de vue-là.
Tout ce qui est exposé et au service du public.
Et un troisième item qui augmente de manière très importante, mais qui n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est la cyber, c'est toutes les atteintes à la cyber, etc. Alors, en ce qui concerne les atteintes à l'autorité et à la sécurité, évidemment que ça augmente parce qu'on est dans une société qui de plus en plus ne respecte pas l'autorité, mais ça n'est pas que français. Alors ça ne nous rassure pas, bien évidemment, c'est européen d'une manière générale, mais de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a aussi, et il faut le reconnaître, c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de populations qui procurent cette insécurité, en particulier les mineurs non accompagnés qui sont livrés à eux-mêmes et dont le nombre a augmenté en France et comme dans les autres pays européens.
Là aussi, Amaury Bucco, est-ce qu'on peut peut-être un peu affiner les chiffres à la fois sur le profil des agresseurs? Est-ce qu'on a des indications sur ce profil-là? Et puis sur le profil des victimes? Est-ce qu'il s'agit plus de touristes, de gens qui vaquent à leurs occupations, qui se rendent sur leur lieu de travail, de fêtards, peut-être de jeunes femmes qui rentrent seules le soir? On a des indications?
Alors on a des indications. Alors effectivement, vous parliez des touristes. Alors nous, on sait que 1 sur 5... Une victime sur cinq est un étranger, donc a priori c'est potentiellement aussi un touriste. Et on voit que les femmes finalement sont davantage victimes des vols, peut-être aussi parce qu'elles ont des sacs à main, des colis, etc. Mais aussi bien sûr des agressions sexuelles, elles sont victimes 97% des agressions sexuelles. Et les hommes, eux, sont plus victimes des coups et blessures. Alors pour le profil des agresseurs, alors là aussi on a quand même des chiffres assez parlants. On a une surreprésentation des étrangers. Alors quand je dis une surreprésentation, ce n'est pas seulement par rapport à la population globale, mais c'est aussi une surreprésentation dans les transports en commun par rapport aux agressions qui ont lieu en dehors des transports en commun.
D'accord.
Donc des étrangers qui sont plus de la moitié des mises en cause, hein, c'est 56% le chiffre. Et puis il y a aussi un tiers de mineurs. Donc vous parliez des mineurs isolés, mais il y a aussi les réseaux de mineurs, et alors notamment des filles, beaucoup de filles qui font des vols. C'est 77% en fait des mineurs qui font des vols sont des femmes. Alors souvent des réseaux de l'Est, etc.
Alors pardonnez-moi, Ludovine de voilà. La Rochère, cette incise, mais ça bat en brèche quand même toutes les phrases qu'on a pu entendre de la part de certaines formations politiques disant il n'y a pas de lien ou de corrélation entre délinquance et immigration. Alors, là, chiffres à l'appui quand même.
Il y a à l'évidence un lien, ne serait-ce que la différence de culture, la situation dans laquelle ils sont, c'est des populations... Il y a notamment les mineurs qui sont isolés, qui sont laissés à eux-mêmes, vous l'avez dit. Il y a tout un ensemble d'explications et de facteurs. Et puis il y a aussi, dans les quartiers parfois, ça a été constaté par des sociologues, plus de difficultés ou en tout cas un certain abandon de l'éducation des enfants qui sont laissés dehors et qui ne reçoivent pas l'éducation et ce qui leur apprend à vivre avec l'autre, à respecter l'autre, à respecter l'autorité. Et je ne les accuse pas, et ça n'est pas le cas pour tous, mais il y a une difficulté d'ordre sociologique.
On appelle le savoir-vivre et le respect, quoi, tout simplement.
Mais exactement, enfin, exactement. Et alors, c'est ce que je dis souvent, on parle de l'éducation nationale.
C'est la connaissance des règles françaises.
Et c'est ça, il y a aussi la différence de culture. J'évoquais tout à l'heure les personnes qui parlent sur leur téléphone extrêmement fort. Alors, je n'ai pas lu d'études là-dessus. Il se trouve que, empiriquement, ce sont plutôt des personnes originaires d'autres pays. Il y a d'ailleurs, et chacun sa culture, des cultures dans lesquelles on parle très fort.
Enfin, mais le savoir-vivre et le respect des autres, ce n'est pas propre non plus à la culture française. On ose espérer qu'il
y a aussi. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a peut-être une tolérance différente selon la culture qu'on a. C'est tout simple.
Le problème, madame, c'est que si quelqu'un se comporte comme ça dans un pays africain ou dans un pays arabe.
Ça ne gêne personne, exactement.
Non, c'est pas. Alors, si, ça gêne. Mais croyez-moi qu'on va lui faire entendre raison d'une manière qu'il ne pourra pas ne pas comprendre, si vous voulez. Donc ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire que chez nous, quand ça se passe, effectivement, les gens se taisent, les gens baissent les yeux, et évidemment, après, les gens se croient tout permis. Voilà,
c'est
la première chose. La deuxième chose, par rapport aux formations politiques et aux élites médiatico-politiques qui, pendant des années, ont nié le lien entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité, excusez-moi, c'était des menteurs. Parce qu'en réalité, les Français savent ça depuis déjà des années, sinon des dizaines d'années, et les responsables politiques qui ne vivent pas non plus sur la planète Mars, ils vivent bien en France, ils voient les choses. Alors qu'ils n'aient pas vu ce que tout le monde voit, c'est plutôt idéologique et politique. Voilà, pour faire admettre, pour faire préserver cette idée que du vivre ensemble bien heureux, toujours et partout, ce qui est de moins en moins le cas, et ce qui est aujourd'hui le réel saute aux yeux. Quoi.
Je crois qu'il faut, il faut un peu aussi, à un certain moment, modérer les propos et éviter un peu ces discours englobants. Moi, en tant que policier dans la coopération, j'ai vécu pendant 6 ans en Afrique, dans 2 pays différents. Je peux vous assurer que dans le peu de transport en commun qu'il y a en Afrique, ça gueule de partout. Quoi.
Oui,
donc ce que vous dites n'est pas la réalité.
Mais Christian n'est pas agressé, pardon.
Là, je suis en train,
il y a des ressentis différents, en l'occurrence.
De sortir de cette espèce de discours englobant. Et puis, il y a 2 jours, j'ai pris le TGV. À côté de moi, il y a quelqu'un qui téléphonait. Et c'était une américaine, et c'était pas du tout quelqu'un qui venait de tel ou tel pays. Mais peu importe. L'idée, c'est effectivement d'arriver à reconnaître que dans certaines parties de la délinquance, et pas toute la délinquance, bien évidemment, dans certaines parties de la délinquance, il y a effectivement une part importante de délinquance due à l'immigration. On a cité les MNA, les mineurs non accompagnés. On peut citer aussi dans la vente de stupes, dans certaines parties de la capitale ou d'autres grosses métropoles, une surreprésentation de l'immigration. On sait que dans les prisons, il y a à peu près 28% de la population carcérale qui est représentée dans les prisons, ce qui est une surreprésentation par rapport au nombre de...
N'est-ce pas une raison suffisante pour lutter contre l'immigration illégale, à vos yeux ?
Illégale,
D'abord, il faut lutter contre
la... C'est vous qui le dites, Jean. Attendez,
quand vous avez...
Excusez-moi, on n'a pas besoin d'immigration, on est en train de discuter
de sécurité, en particulier de sécurité des transports en commun. Il vous faut un plan pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Et il faut, à un certain moment, quand vous prenez quelqu'un qui est en train de voler dans un transport en commun, savoir, en fonction de sa personnalité, qu'est-ce qu'on va lui appliquer. Alors, bien sûr que il devient nécessaire, plus que jamais, d'expulser les gens qui font un certain nombre de délits et qui refont tout le temps ce délit-là et qui sont multirécidivistes. Mais il faut aussi se poser la question de la réponse pénale aussi. La réponse pénale à la première infraction. Ça, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. La réponse pénale pour tout le monde, quelle que soit l'origine.
Oui, mais le problème, si
vous voulez... L'un n'exclut pas l'autre, on est bien d'accord.
Le problème, si vous voulez, c'est que compte tenu de la masse de délinquants et en particulier de la surreprésentation de certaines immigrations dans la délinquance et la criminalité, la réponse pénale ne sera jamais à la hauteur parce qu'il manquera toujours des moyens. C'est exactement comme celui qui veut maintenir son domicile à 19 degrés en ayant les portes et les fenêtres ouvertes. Là, c'est pareil. Vous voulez effectivement maintenir ou baisser même le niveau de délinquance et de criminalité, mais vous ne proposez pas, enfin en tout cas le gouvernement ne propose pas de fermer les vannes de l'immigration légale et illégale. Donc on est condamné, si vous voulez, à mettre à chaque fois un peu plus de moyens sur le terrain, que ce soit des policiers, que ce soit des juges, que ce soit des places de prison, mais ces moyens sont submergés par les immigrations qui arrivent et qui continuent d'alimenter le phénomène. On est dans un cercle vicieux dont on ne veut pas sortir.
Bah, il est en train de vous dire qu'il y a quand même une corrélation sûre. Vous ne démentez pas complètement son propos.
Attendez, j'espère que vous le voyez.
Je viens de vous dire. Vous avez parlé j'étais un des premiers à parler des MNA dans ce domaine-là. Mais je ne dément pas un certain nombre de relations dans un certain nombre de domaines. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il faut éviter ces discours englobants et se dire que la criminalité, la lutte contre la délinquance, c'est une lutte globale contre les délinquants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent.
Non, mais pardonnez-moi, enfin, si vous pouvez faire déjà baisser
pardonnez-moi, c'est évident. Enfin, c'est une lapalissade que de dire qu'il faut traiter la délinquance, quelle que soit l'origine et la culture des intérêts. Mais c'est une évidence, d'une part.
Vous connaissez quelqu'un d'autre en France qui ne veut pas lutter contre la délinquance ?
Il est évident que toutes les personnes immigrées ou issues de l'immigration ne sont pas des délinquants et beaucoup travaillent et on les comprend et on les connaît, ils sont autour de nous. Alors, mais si vous y tenez, je le dis aussi explicitement, mais moi ça me paraît tellement évident que voilà. Et d'ailleurs tout à l'heure je disais, dans certains cas, on a un problème. Moi je pense que l'immigration massive nous rend aujourd'hui l'intégration impossible. Et les statistiques que nous évoquons, on parle des étrangers, et pour les prisons aussi, mais vous savez bien qu'on n'a pas droit aux statistiques ethniques alors que la plupart des pays le font.
C'est dommage, d'ailleurs.
Si on regardait, par exemple dans les prisons, la proportion de personnes étrangères ou issues de l'immigration, le résultat serait très différent. Osons le dire, parce que quand on n'ose pas dire les choses, on ne peut pas les traiter correctement.
Amaury Boucaud, peut-être une précision.
Oui, on parlait justement de la chaîne pénale et des origines des agresseurs. En fait, le problème, c'est que c'est ce que dit très bien cet agent qu'on a entendu son témoignage de la sécurité, c'est qu'en fait, l'ennui, c'est que quand ils n'ont pas de papier, la chaîne pénale est finalement inefficace parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et les agents qui sont dans les transports en commun n'ont pas les moyens de demander l'identité de quelqu'un. Ils sont obligés de faire appel à la police, qui doit se déplacer, emmener cette personne au commissariat, ça peut durer 4 heures, et cette personne, si elle ne donne pas d'identité, on ne peut malheureusement rien faire, sauf si vraiment il a tué quelqu'un, mais s'il a fait un petit vol ou un larcin, on va dire, en général, on relâche et il revient, et le lendemain, il les revoit, et c'est pour ça que
donc, c'est assez décourageant. Non, mais ça participe de la lassitude des forces de l'ordre qui nous décrivent jour après jour.
Et au lieu de dire qu'il faut expulser, il faut arrêter de laisser entrer, puisqu'on ne peut pas expulser.
Il nous reste 3 minutes. Voilà. J'aimerais qu'on entende aussi le son de cloche de certains Français qu'on a interrogés sur la question. Quelle est la solution à leurs yeux? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut plus de policiers sur le terrain? Écoutez.
On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre. Et j'ai pu aussi en voir. Donc je pense que oui, il en faudrait plus.
Avec tout ce qu'on entend en ce moment, pourquoi pas? C'est vrai qu'on entend ici et là qu'il y a des agressions. Donc si la seule manière de répondre à ça, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour réguler tout ce qui peut se passer, oui.
Je suis pas sûre que ce soit un problème de force de l'ordre. Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais pourquoi pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames.
Amaury Bucaud, peut-être un chiffre aussi sur... on parlait de ces agents, que ce soit de la RATP. Bon là, en l'occurrence, on est sur les transports en commun, donc on ne va pas parler des agents de la SNCF, encore qu'il y aurait sans doute beaucoup à dire. Vous avez des chiffres là aussi, un peu de données?
Alors c'est en fait le rapport qui est tombé ce matin du ministère de l'Intérieur n'inclut pas ces chiffres, mais alors l'UNSA RATP, qui est un syndicat, m'a fourni ces chiffres-là. Et donc depuis le début de l'année, alors c'est seulement les bus et en France, puisque c'est pour en Île-de-France, puisque c'est la RATP. Et donc c'est 644 agressions de janvier à août pour les machinistes, qui sont en fait les conducteurs de bus. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que parfois les violences, elles ne sont pas dans les bus, mais sur les bus carrément. C'est ce qui s'est passé par exemple à Bagneux le 7 septembre. C'est un bus entier qui a été caillassé avec quand même deux voyageurs agressés puisqu'il y avait des gros projectiles. Voilà. Ou alors vous avez aussi au métro La Chapelle, c'était le 29 août, un métro pour le coup qui a été caillassé par un individu. Alors lui était fiché S clandestin, était sur les rails et il s'est mis à acheter des cailloux sur le métro.
Donc là, vous voyez, 644, hein, on l'a bien 600, entendu.
644 seulement pour les bus et seulement pour l'Île-de-France.
En l'espace de
6 mois, janvier à août.
Monsieur Fauvergue a évoqué tout à l'heure, c'est vous madame qui avez évoqué tout à l'heure les statistiques ethniques. Évidemment qu'elles sont interdites en France, mais pas pour ne pas stigmatiser certaines populations. C'est au contraire. C'est qu'on refuse les statistiques ethniques parce qu'elles feraient immédiatement apparaître la réalité sociologique et ethnique de notre délinquance et de criminalité. Donc évidemment, comme le système veut absolument maintenir ces choses-là sous le boisseau, eh bien on ne fait pas de statistiques ethniques. Alors que si on les faisait, le réel ne pourrait pas être contestable.
Alors d'ailleurs, question bête, qui décide de ça et comment il faut légiférer là-dessus?
Il y a une espèce de consensus politique et idéologique de ce qu'on a appelé jusqu'à présent, de nos derniers dirigeants, la droite, la gauche, le centre, ce qu'on appelait les partis de gouvernement. Et c'est ce que pense une certaine élite qui dirige notre pays depuis un certain nombre d'années. Et j'ajouterai qu'il y a aussi une peur de la remise en cause du regroupement familial qu'on a élargi ces dernières années. Merci Monsieur Darmanin. Et deuxièmement, une peur d'une remise en cause du droit du sol, en fait. Évidemment, là, on retient, on évite. Et je vois bien depuis quelques années, on ose dire qu'il y a un problème avec l'immigration illégale, avec les mineurs isolés. Ça, c'est sorti, mais on va pas au-delà.
30 secondes et la parole à Jean-Michel Fauvergue.
Je crois qu'il y a un fantasme autour des statistiques ethniques. Moi, je suis tout à fait pour les statistiques ethniques, mais je crois qu'il y a un fantasme. On brode autour et ça donne l'interdiction de ces statistiques donne l'occasion pour certains de broder autour.
Non, en fait, c'est parce que dit la démocratie, Michel Trépalin.
C'est le Conseil constitutionnel qui l'interdit. Il faut revenir là-dessus si on veut avoir des statistiques ethniques. Et ça me semble.
Il faut regarder les travaux de la démographe Michel Trépalin.
C'est la fin de cette première partie. On y a consacré déjà beaucoup de temps. J'aimerais qu'on s'attache tout à l'heure à parler de ce qu'on peut.
Elle a travaillé à lunettes pendant des années.
Ils ont continué le débat, mais c'est pas grave. On vous laisse continuer.
Le bras n'est pas orienté. C'est pareil.
On va parler de l'assistanat. Y a-t-il un assistanat social dans notre pays? Vous avez peut-être vu cette fiche de la CAF qui atteste qu'une famille du Bas-Rhin a reçu pas loin de 6 000 € d'allocations familiales ou d'allocations d'aides sociales diverses et variées. On en parle ensemble juste après la pause.
Ils ont dit ça,
De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. Avant de reprendre le débat avec nos invités, le JT a commencé par cette très très longue attente à Londres, cette queue de plusieurs kilomètres pour parvenir jusqu'au cercueil de la reine. Vous le voyez, les rues sont bondées. On n'hésite pas à parcourir plusieurs kilomètres pendant 7, 8, 9 heures. Vincent Fandège, vous êtes
aux premières loges hein, sur ce parcours. Vous êtes vous, tout à l'heure vous étiez au bout de... Ah ben non, là vous n'êtes pas du tout au même endroit, vous vous êtes déplacé. Racontez-nous un petit peu ce que vous voyez, est-ce que vous êtes proche de Westminster Hall à l'heure qu'il est?
On est à l'autre bout de Londres, tout simplement, à l'opposé de Westminster Hall. Nous sommes au tout début de la file d'attente. C'est ici que, en fait, les gens font la file d'attente pour accéder à la file d'attente. Ici, eh bien, on fait la queue pour avoir le précieux sésame. C'est un bracelet de couleur violette pour accéder à la file d'attente officielle. Mais pour accéder à cette file d'attente, il faut attendre encore 2 km en amont. C'est énorme et c'est très impressionnant le nombre de personnes ici qui se relaient. Et ensuite, la file d'attente officielle commence ici, sous Tower Bridge, tout simplement. Et bien, il faut savoir que nous sommes à peu près à 7 km de Westminster Hall. C'est 1 heure de marche. En revanche, c'est une dizaine d'heures d'attente. Comment ça va se passer ensuite? Eh bien, les personnes vont donc marcher jusqu'à Westminster Hall. Ils ont jusqu'à lundi matin 6h30 pour le faire. Et ensuite, il y aura les funérailles de la reine à partir de 11h, heure locale, midi, heure française. 1h55 de cérémonie exactement. À l'issue de laquelle, eh bien, le cercueil de la reine sera transporté de Westminster Abbey jusqu'à la Wellington Arch, c'est-à-dire juste à côté de Buckingham Palace, accompagné par la famille royale, évidemment, des funérailles auxquelles assisteront évidemment énormément de chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Et puis ensuite, lundi, en fin d'après-midi, il y aura les dernières funérailles, la dernière cérémonie, cette fois-ci dans la dernière demeure de la reine Elisabeth II à Windsor.
Vous êtes en train de nous dire juste une petite question, que là où vous vous trouvez, entre cet endroit et le Westminster Hall, il y a grosso modo 8-10 heures d'attente et de marche, donc.
10 heures. 10 heures d'attente à partir d'ici. Une fois qu'on a eu notre bracelet, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bracelet avant de faire la file d'attente officielle. Et je dirais, à vue de nez comme ça, il doit y avoir à peu près 45 minutes d'attente pour accéder au bracelet, pour ensuite faire les 10 heures d'attente qui mènent jusqu'au Westminster Hall. Alors la balade, elle est pas mauvaise, hein. C'est le long de la Tamise ici, en plus il fait beau, c'est pas désagréable, néanmoins c'est 10 heures d'attente, debout, et je vous le rappelle, il faut bouger, c'est interdit de rester fixe d'ailleurs dans cette file d'attente.
Donc ceux qui sont là, en gros, ils vont accéder au sein des saints à 1h du matin. Bon, ça calme quand même. Merci beaucoup, cher Vincent.
À 1h du matin, à peu près.
Ouais. Au procès de l'attentat de Nice, on va y revenir dans un instant. D'ailleurs, les images de vidéosurveillance ont finalement été diffusées. Des images d'une extrême violence qui sont censées éclairer la cour sur cet acte criminel commis le 14 juillet 2016 par Mohamed Laouej Boulel. Leur diffusion devant la cour d'assises spéciale a d'ailleurs provoqué une vive émotion. Je vous propose d'écouter Isabelle Carly. Elle est une rescapée de cet attentat.
Je suis restée dans la salle volontairement. Mon mari est un ancien officier de marine qui était quand même très solide de caractère, mais il n'a pas voulu m'accompagner, il n'a pas souhaité m'accompagner malgré qu'il se sentait très solide de venir. Au dernier moment, il a abandonné l'idée de venir, mais j'ai fait confiance à ma petite voix, si vous voulez. J'ai tenu absolument à regarder cette vidéo car j'ai décidé de témoigner le 22 septembre à la cour, à Paris, et il m'était nécessaire de regarder cette vidéo, je dirais avec un peu de stoïcisme quand même, mais je ne le regrette pas. Je suis moi-même victime rescapée de l'attentat de Nice à quelques secondes près, si vous voulez, et je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction future. J'ai ressenti des images de terreur qui sont indescriptibles, si vous voulez, des moments terrifiants, des moments apocalyptiques, je dirais, qu'on ne peut pas décrire tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas subi, je dirais. Voyez.
Le Stade Rennais joue ce soir à domicile en Europa League contre les Turcs du Fenerbahçe. Après les derniers incidents observés à Nice, à Marseille, il y a quelques jours, les pouvoirs publics ont voulu mettre en place un important dispositif de sécurité que nous fait découvrir Mickaël Chaillou.
Pour raison de sécurité, la billetterie du Stade Rennais est restée fermée au grand public. Seuls 20 000 spectateurs, uniquement les abonnés et leurs proches, auront accès au Rosenpark qui pourrait en accueillir presque 10 000 de plus. Grosse colère des supporters rennais.
Est-ce qu'on sait gérer les matchs de foot ? C'est ça la question en fait. C'est que sous motif qu'il y a des risques et que manifestement s'ils adviennent, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les traiter, et ben on interdit les supporters locaux qui n'ont jamais rien fait de mal à Rennes.
Cette mesure était obligatoire, répond-on en préfecture, pour assurer la sécurité des Rennais et des 1350 supporters turcs attendus dans le parcage visiteur.
Le risque sur le match de Fenerbahçe est en train d'être réévalué à la hausse. Ceux qui plaide de plus fort pour les mesures qui ont été décidées.
Sur les réseaux sociaux, Antoine est l'administrateur d'un groupe de 7000 aficionados rennais. Il dénonce le fait que les abonnés avaient la possibilité d'acheter jusqu'à 10 places chacun.
On peut se demander du coup, est-ce qu'il n'y en a pas qu'on finit sur le marché noir du coup à ce niveau ? Et qu'on finit du coup dans les mains d'autres supporters, on ne sait pas. Enfin, voilà.
Pourquoi pas des supporters turcs ?
Pourquoi pas ?
Dans un stade rempli qu'aux deux tiers, le coach du Stade Rennais et ses joueurs devront convaincre sur le terrain pour les nombreux supporters déçus qui les regarderont à la télé.
Un mot d'économie à présent et les taxes foncières. La taxe foncière commence à arriver dans vos boîtes à lettres si vous avez opté pour l'option papier. Et Éric de Rilmaten, évidemment, une hausse observée dans de nombreuses... localité française cette année.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
La taxe foncière, c'est vrai, ça commence à râler, elles arrivent dans les boîtes aux lettres. Ça râle tellement d'ailleurs qu'il y a un débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale à ce sujet. Elles ont flambé, on atteint des hausses jusqu'à 13% à Marseille, 11,6% à Tours, presque 10% à Nantes et Strasbourg. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait eu les élections municipales, des promesses, on a construit des tramways, des pistes cyclables, des piscines. Et maintenant, eh bien, il faut des recettes, sachant que la taxe d'habitation, en plus, a disparu en grande partie. Alors, les promesses électorales ont été tenues. Maintenant, on parle de taxe foncière qui va continuer de grimper. On parle pour l'année prochaine de 6 à 7%. Donc vous le voyez, ça va durer. Les experts ont calculé qu'en 10 ans, le seul poste foncier, donc cet impôt foncier, avait grimpé de 30%. 10 ans, je le répète, un très mauvais point. Donc au moment où l'État parle de baisse de la fin de la pression fiscale.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Retour avec Ludovine de la Rochère, Jean-Michel Fauvergue et Jean Messier. On va parler de la CAF qui atteste bien qu'une famille du Bas-Rhin qui est composée d'un couple et de ses 10 enfants a touché la modique somme de 5 789,53 € en allocations sociales diverses et ce au mois d'août. Cette feuille est bien authentique. On a évidemment sondé, vous avez vu cette feuille apparaître peut-être sur les réseaux sociaux. On s'est dit, est-ce que c'est trafiqué, est-ce que c'est un fake ? Eh bien non, il semblerait que cette famille ait bien touché tout ça. Les deux parents sont bénéficiaires du RSA et leurs enfants sont donc tous à charge puisqu'ils ont entre 0 et 19 ans. Alors, cette question évidemment que j'aimerais vous poser, notre système social est-il trop dans une logique d'assistanat ? Est-ce qu'on favorise trop l'assistanat aujourd'hui ? Oui, disent 3 Français sur 4. En tout cas, c'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. J'imagine que ce ratio ne vous surprend pas. Vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez vu l'affiche là, des allocs ?
Non, parce qu'on en avait déjà, ça fait déjà des années qu'on parle de ça. Hein. Je crois que c'était Jacques Chirac qui avait évoqué une famille qui touchait 22 000 francs à l'époque de prestations sociales. Donc vous voyez, le sujet n'est pas nouveau. Là, bon, c'est, évidemment, c'est une famille qui a 10 enfants, donc c'est un peu un effet loupe. Peu de familles ont ce nombre d'enfants-là. Mais effectivement, l'assistanat, on peut en discuter, mais l'assistanat n'est jamais que la conséquence, si vous voulez, d'un modèle économique qui génère un chômage de masse et une pauvreté croissante. Quand vous avez 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et un chômage qui touche 6 millions de personnes, vous ne pouvez pas attaquer l'assistanat sans avoir fait une politique économique pour faire redémarrer l'économie et pour favoriser de l'emploi. Maintenant, ce qui choque les Français aussi, c'est qu'au moment où l'État-providence et cet assistanat ont été mis en place, c'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on avait une société qui était homogène, une société où il y avait une cohésion nationale. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez encore une fois certaines immigrations qui sont surreprésentées dans les prestations sociales et familiales. Et effectivement, comme la société française est disloquée, eh bien, les Français ont de plus en plus de mal à comprendre, en tout cas, ils ont plus de mal à comprendre aujourd'hui qu'il y a 40 ans, pourquoi il faudrait payer, si vous voulez, pour un modèle qui ne bénéficie pas seulement aux Français, mais qui est ouvert, pour ainsi dire, à la terre entière. Donc il y a aussi cette problématique-là, je pense, qui est prise en compte par les Français pour exprimer ce taux de surprise par rapport à l'assistanat.
Alors, vous le savez, Éric Ciotti, il souhaite plafonner les allocations chômage. Et puis, il y a cette vidéo qui circule depuis
depuis quelques heures maintenant, où on voit Sandrine Rousseau lors d'une interview qui revendique en fait ce qu'elle appelle elle, le droit à la paresse et qui dit en somme le travail aujourd'hui c'est vraiment une valeur de droite. Écoutez, regardez la séquence. Sandrine Rousseau, donc, si on pouvait avoir la séquence.
Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça, les allocations. Ça sert à ça et c'est hyper important.
Mais il oppose pas, les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage.
Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse. Je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite.
Et puis elle le dit
sans complexe, ouais. Et,
exactement,
et sans en allant même jusqu'à parler de paresse. En fait, c'est très choquant parce que la paresse dont elle parle, c'est une paresse qui est possible dans certains cas ou pour certaines personnes parce que les autres travaillent pendant ce temps-là et financent ces subventions sociales. Elles ne viennent pas de nulle part, ces subventions. Elles viennent évidemment de tous ceux qui travaillent. Moi, je suis frappée d'abord par le fait qu'il y a la fiche d'allocation qu'on a vue pour le mois d'août. Mais il y a la cantine gratuite, il y a la SNCF, la carte de famille nombreuse gratuite, il y a les cantines gratuites, il y a les bourses que peuvent toucher les enfants de ces familles. Donc en fait, c'est beaucoup plus considérable que ne le montre la seule feuille que nous avons vue. À côté de cela, dans ces allocations, il faut bien préciser que la plupart sont sous conditions de ressources, y compris les allocations familiales. Oui. Et cela veut dire que beaucoup de familles qui sont juste au-dessus des seuils, qui sont des familles de la classe moyenne, elles n'ont à l'inverse absolument aucune aide. Et aujourd'hui, on a des injustices immenses à ce sujet-là. Par ailleurs, elle le disait d'ailleurs, Sandrine Rousseau, l'assistanat, enfin, le fait de soutenir des personnes en difficulté, c'est parce que le principe, c'est que ce sont des personnes qui sont dans l'incapacité, l'impossibilité, plus ou moins durable, de travailler, d'avoir une vie professionnelle quelle qu'elle soit, ou un accident de la vie.
Mais là, c'est parce qu'elle nous dit. Hein.
Et alors, elle dit, il y a parfois une... elle dit, il y a parfois besoin d'une aide.
Mais après,
et ça, on l'entend. Sauf que la grande différence, dans ce que là, on voit a priori, c'est qu'ils sont deux parents qui ont 10 enfants, et aucun des deux parents ne travaille. Quand on a 10 enfants, et on espère qu'ils les élèvent et qu'au moins ils s'y consacrent à fond, c'est qu'on est capable... C'est quand on est a priori en capacité physique et psychique, parce que 10 enfants, c'est pas facile, et donc a priori, on est en capacité de travailler. Il y a ce décalage entre une telle vie de famille et l'absence d'activité.
Jean-Michel Fauvergue, propos quand même de Sandrine Rousseau, qui dit, parce que c'est pas juste dire qu'il y a des périodes de transition dans la vie. Non, mais parfois, il y a des chômages structurels,
qu'une famille.
Là, elle dit paresse quand même.
Oui, qu'une famille ou qu'un individu. Soit aidé parce qu'il en a besoin à un certain moment.
C'est ça.
Il ne faut pas oublier que c'est la solidarité effectivement qui paie ça. Alors on a le droit à une paresse, mais si on a le droit à la paresse volontaire, à ce moment-là, on se la paye tout seul. Quoi. Mais ce que je veux dire, la France est un des pays qui redistribue le plus, sur 1 000 euros environ, vous avez 570 euros. De solidarité entre les retraites, entre le chômage, entre l'ensemble des aides. Moi, je pense qu'il y a dans cette affaire-là, il y a plutôt deux problèmes importants à voir. Le premier problème, c'est le problème de la fraude. Il faut savoir qui fraude sur ces allocations-là et la combattre encore plus durement qu'on le fait aujourd'hui. Et le deuxième problème, c'est d'essayer de faire un gap beaucoup plus important entre ce que rapporte le travail et ce que se rapporte l'assistanat. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler, y compris pour les 2,9 millions de chômeurs au sens du Bureau international du travail, qu'il va falloir voir si leur situation est une situation de recherche d'emploi ou si c'est une situation dans laquelle...
J'ai dit Sandrine Rousseau et je vous assure... que Jean Messia est dans les starting blocks. Ah. C'est parti, Jean, allez-y, c'est le festival pour
non,
vous.
Non, mais c'est-à-dire, bon, moi, je n'ai pas commenté ce qu'a dit Sandrine Rousseau, effectivement.
Ah bon,
si effectivement, on a le droit à la paresse, bah, la paresse, il faut se la payer soi-même, comme disait M. Fauvergue, il a parfaitement raison. Maintenant, si vous voulez, c'est vrai que cet État-providence et ce système social qui est particulièrement généreux en France a été dévoyé par certaines catégories de la population qui le considèrent comme une machine à cash. Qui a 10 enfants aujourd'hui en France dans les conditions économiques et sociales actuelles? Voilà, il y a des personnes, il y a des cultures, notamment quand le système est encore une fois ouvert à la terre entière, qui viennent pour ça, qui viennent pour faire des enfants parce que les enfants rapportent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas faire une petite confusion parce qu'on compare ce système-là à celui qui gagne le SMIC ou aux familles qui gagnent le SMIC. Mais en réalité, ceux qui gagnent le SMIC ont aussi le droit à un certain nombre d'aides auxquelles ont droit ceux qui sont au RSA. Je pense par exemple aux APL, je pense aux allocations familiales. Alors évidemment, c'est un peu moindre parce qu'ils travaillent, mais je veux dire, il ne faut pas comparer de manière aussi brutale et sèche des gens qui ne vivraient que de l'assistanat avec des gens qui ne vivraient que de leur travail. Parce qu'en réalité, les revenus qui sont proches du SMIC ont également le droit à d'autres aides. Et en fait, en France, il n'y a personne qui vit au SMIC. On vit toujours avec des aides.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'au fond, ce sont les classes moyennes qui sont lésées.
Voilà, c'est ça, exactement.
Parce qu'un tout petit peu au-dessus, pour le coup, il n'y a plus rien. Un tout petit peu au-delà du SMIC, si on monte en
compte. Oui, mais il y a toujours des effets de seuil.
J'évoquais les allocations familiales, parce que les allocations familiales, c'est la solidarité de toute la nation à l'égard des familles qui, par l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, investissent pour l'avenir. Et donc, cette solidarité, elle a toujours été versée à toutes les familles de manière égale. Et depuis 2015, on a mis ces allocations familiales sous conditions de ressources, alors que c'est une politique de solidarité horizontale et non pas une politique sociale de solidarité entre les riches et les pauvres. Et on a dévoyé, on a cassé cette idée que nous sommes redevables aux familles et que nous devons tous soutenir les familles. Les familles, elles ont bien davantage de dépenses, elles ne peuvent pas capitaliser de la même manière, elles ne peuvent pas préparer leur retraite de la même manière. Or, par exemple, elles permettent le financement des retraites demain, y compris de tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Et c'est là où cette solidarité horizontale, elle était juste, elle était fondamentale. Et là, on a créé.
Le problème, c'est que
et d'ailleurs la natalité.
On vous dit que ce système est très. Les gens qui vous disent que ce système est onéreux, ils ont raison. Sauf qu'ils ne disent pas.
Les familles rapportent considérablement.
Non, mais attendez, c'est pas la question. La question, c'est que ce système est onéreux, c'est vrai. La France a eu longtemps les moyens d'honorer le coût de ce système parce qu'il y avait effectivement de l'emploi. Mais par contre, personne de ceux qui disent que ce système est onéreux, aucun ne dit qu'il faut limiter la solidarité nationale et qu'elle doit rester nationale. C'est-à-dire qu'il faut la limiter aux Français. Voilà.
Mais la branche de la sécurité sociale pour la politique familiale a toujours été bénéficiaire, tant et si bien qu'aujourd'hui, on ponctionne dedans pour les retraites de la fonction publique. Ce sont des sujets un peu complexes, mais qui en disent long et qui font partie des dévoiements et des détournements auxquels nous assistons depuis quelques années.
Mais enfin bon, cet exemple, même si effectivement il y a un effet loupe, comme le disait Jean Messia, ça nous permet de remettre ça sur le métier. On n'a pas fini d'en parler, de cette redistribution sociale et parfois de potentiellement de ses excès. J'aimerais, puisqu'on a rendez-vous avec Noémie Schulz qui nous attend du côté de la Cour d'assises spéciale de Paris, la suite du procès de l'attentat de Nice, bien sûr, avec un moment assez important et poignant, même glaçant, on peut aller jusque-là, la diffusion des images de cette soirée meurtrière, de la vidéo de ce 14 juillet 2016. Était-ce bien nécessaire? Comment l'ont vécu les familles? On va s'interroger là-dessus. Noémie, comment s'est passée cette projection? Quelles ont été les réactions dans la salle d'audience?
Il faut, pour mesurer d'abord l'horreur de ce qui a été projeté, imaginer cette salle, immense salle d'audience plongée dans la pénombre. Il y avait plus de parties civiles, c'est-à-dire plus de victimes que les autres jours, peut-être une cinquantaine, beaucoup de journalistes, d'avocats aussi présents dans la salle. Un silence très pesant, comme une chape de plomb qui s'était abattue sur la salle d'audience des personnes qui étaient comme en apnée. On a été marqué par le monde qu'il y avait sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. On le savait, 30 000 personnes avaient assisté au feu d'artifice, mais là, voilà, on mesure la densité, ces trottoirs noirs de monde, des familles qui étaient dans un moment de fête. Et puis ce camion qui surgit, le camion dont la taille frappe, on le savait, on parle toujours de ce 19 tonnes, mais on mesure à quel point il était énorme quand on le voit à côté d'autres véhicules et quand on le voit bien sûr faucher ses passants, ce camion qui fait des embardées à droite, à gauche pour percuter le plus de monde possible qui vise des enfants à un moment. Les images bien sûr à peine supportables que je n'ai pas. pas toujours pu regarder de ces groupes fauchés qui n'ont pas vu le camion arriver, qui n'ont pas eu le temps de lui échapper. Et puis les réactions dans la salle à des moments très précis avec des cris par moments, le long gémissement d'une femme qui s'est levée et a quitté la salle d'audience en pleurant. Et puis par d'autres moments, ces murmures horrifiés. Et puis enfin, une dernière chose qui est très marquante, c'est le courage de ces hommes, de ces quelques hommes qui ont couru derrière le camion, ont essayé de l'arrêter, d'ouvrir la portière, de monter sur le marchepied, qui ont tout fait pour le stopper, mais bien sûr qui n'ont pas réussi.
Alors on s'interroge évidemment dans ces conditions. Pourquoi le président de la Cour a-t-il donc décidé de les diffuser ?
Ça a fait débat. Le président a pris le temps de la réflexion. D'ailleurs, pratiquement l'ouverture du procès, il avait dit qu'il y réfléchissait. Il a pris les avis de tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des avocats de partie civile, donc les avocats de victimes, étaient favorables en expliquant que leurs clients souhaitaient que soient projetées ces images pour différentes raisons, pour que la Cour mesure l'horreur de ce qui s'est déroulé, pour qu'on comprenne précisément les faits, pour que l'on comprenne aussi ce qu'ont vécu ceux qui ont assisté à la scène sans forcément être blessés physiquement et qui, pour certains, cherchent à se faire reconnaître comme des blessés psychiques par la justice, pour que les accusés aussi soient confrontés à ces images. La défense, justement, était-elle plutôt opposée, en rappelant que les accusés ne sont pas jugés pour complicité, donc ne sont pas jugés pour avoir eu connaissance de cette attaque précisément. Et puis l'avocat général, le représentant du parquet antiterroriste, était lui aussi très réservé en disant il faut mesurer l'atrocité, l'effroi qui va saisir les gens quand ils verront ces images. Et c'est vrai qu'un mot résume ce qu'on a vu, c'est le mot épouvante. Mais voilà, le président a jugé que pour la manifestation de la vérité, pour comprendre le déroulé des faits et pour aussi comprendre quelles sont les victimes de cet attentat, il était important que ces images soient projetées. Bien sûr, personne n'était obligé de les regarder.
Dernière question, et s'il vous plaît, rapidement, est-ce qu'on a une idée de la sécurité qui a été renforcée pour l'occasion ? On a une idée de cette décision ? Pourquoi on a procédé à cette décision ?
Il y avait une crainte, c'était que des personnes fassent des captations de cette vidéo, qu'elles se retrouvent sur les réseaux sociaux. Alors pour couper court à tout risque, le président a demandé à tout le monde de ranger les téléphones portables dans les sacs, de fermer les ordinateurs portables. Il y avait énormément de gendarmes dans les allées de la salle d'audience. Pareil dans les salles de retransmission aussi à Nice, pour s'assurer que personne ne fasse de capture vidéo de ces images.
Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Noémie Schuss, accompagnée pour les images d'Antoine Durand aujourd'hui à Paris. Jean-Michel Fauvergue, vous avez écouté avec attention. Vous connaissez bien, hein, bien sûr, cette affaire.
Moi, j'étais chef du raid quand ça s'est passé et l'antenne raid de Nice, puisqu'on a une antenne raid à Nice, est intervenue là-dessus. Donc, j'étais aux premières loges sur les informations. Je n'ai pas pu me projeter parce que l'affaire s'est terminée assez rapidement. Sur la projection des images, je suis pour, parce que effectivement, il faut voir les choses et il faut surtout se souvenir. Il faut que tout le monde se souvienne et que tout le monde se souvienne au jour où on nous demande de rapatrier les djihadistes, les femmes djihadistes du Levant, au jour où la Cour européenne des droits de l'homme nous demande de faire ça. Je pense que c'est bien de se souvenir qu'on avait des victimes et qu'on peut avoir demain des victimes de la même manière sur un attentat qui va se faire assez rapidement, qui ne demande pas beaucoup de... Oui. Et peut-être avec des gens qui seront de retour sur notre territoire national. Donc voilà ce que je tenais à dire.
Jean Messia, c'était important de matérialiser les dégâts, l'horreur que ça produit.
Écoutez, moi, j'étais dans un cas de conscience parce que, effectivement, je ne sais pas comment j'aurais réagi à regarder ces images terribles, surtout des enfants, des femmes, des hommes, des innocents. Mais effectivement, je crois que la réponse, c'est qu'il faut voir. Il faut voir parce qu'il faut que la France prenne conscience de ce qu'est l'abomination d'un attentat. Il faut que la France prenne conscience de l'épouvante qu'est un acte terroriste, parce qu'on a des mots. Mais voir la réalité derrière est très importante. Vous savez, en 1945, lorsqu'on a libéré les camps de concentration, les photos des charniers du Troisième Reich, d'Auschwitz, etc., ont été rendues publiques. Ils ont été projetés à Nuremberg, au procès international des criminels de guerre nazis. Et ils ont même été diffusés. Pourquoi ? Parce que derrière, il y avait effectivement un phénomène de mémoire. Il fallait que les gens se rendent compte de ce qu'a été l'horreur du totalitarisme nazi. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il faut que la France ait le courage de regarder ce dont sont capables nos ennemis en face, pour que nous puissions les combattre de la manière la plus ferme et la plus féroce possible.
Écoutez, oui, je pense que nous sommes dans une époque d'idéologie. Celles du 21e siècle ne sont pas tout à fait celles du 20e siècle, mais malgré tout, toute la vie politique, la vie judiciaire est très marquée par certains courants idéologiques et qui sont donc déconnectés de la réalité. Et donc de revenir au réel, au concret, à la réalité et donc à la vérité des faits, je pense que c'est important pour quitter urgemment l'idéologie.
On se fait une petite pause et puis on revient pour parler justement précisément du rapatriement de ces femmes djihadistes de Syrie notamment. Est-ce nécessaire? En tout cas, vous savez, la CEDH a retoqué, on va dire, à défaut de condamner la France pour avoir refusé jusqu'ici de le faire systématiquement. Et on verra pourquoi. A tout à l'heure. La dernière partie de 90 minutes info, le débat reprend juste après le flash info de Mathieu Devez.
Un millier de vols annulés demain après une grève des contrôleurs aériens. Il s'agit de vols au départ ou à l'arrivée du territoire français. De son côté, Air France a décidé d'annuler 55% de ses vols courts et moyens courriers et 10% de ses longs courriers. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. La princesse Anne, seule fille de la reine, était en Écosse à Glasgow. Elle est allée voir les hommages floraux rendus à Elisabeth II. Le prince Édouard et sa femme Sophie étaient eux à Manchester. Les quatre enfants de la reine sont tous attendus à Londres demain soir pour se recueillir devant le cercueil. En tennis, Roger Federer prendra sa retraite à l'issue de la Lever Cup le 25 septembre. Annonce faite par le Suisse de 41 ans sur ses réseaux sociaux. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'est pas réapparu sur un court depuis un quart de finale perdu à Wimbledon. C'était l'an passé. Il avait depuis subi une troisième opération au genou droit.
Merci beaucoup Mathieu. Alors on a beaucoup parlé de la Cour européenne des droits de l'homme qui a épinglé, à défaut de condamner, la France pour n'avoir pas rapatrié les filles et petits-enfants des requérants détenus dans des camps en Syrie. La France qui contreviendrait, c'est un peu technique, à l'article 3 du protocole 4. Nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant. Cette année, plus de 500 Français quand même ont été rapatriés du Levant, de Syrie et d'Irak. Donc, et parmi les dernières femmes rapatriées, ça a été un peu passé sous silence. Au mois de juillet, il y avait la veuve de Sami Amimour, l'un des assaillants du Bataclan, l'un des terroristes du Bataclan. Écoutez l'avis de Gilles-William Golnadel sur la suite judiciaire qu'on peut espérer concernant cette femme.
Et la voie judiciaire, c'est de la rigolade. Une femme comme ça...
Elle va faire combien?
Une femme comme ça, avec ce tempérament-là, elle va donner des renseignements à un magistrat instructeur, comme ça, pour lui faire plaisir. Il n'y a pas une chance sur un milliard. Et en plus, les preuves, elles sont là-bas. Elles sont, une fois qu'elle, indépendamment de ses déclarations, son avocat, il va lui dire « Mais tu dis plus rien, tu étais au courant de rien, tu t'es vanté, tu as beaucoup parlé, mais tu n'as rien fait. » Et on ne peut pas condamner uniquement sur la base de ses déclarations et de ce qu'elle considérera comme des vantardises.
Regardez, qu'elle sera dehors dans deux ans, dans trois ans.
Dans moins de 10 ans.
Parce qu'elle
sera responsable de rien. Mais, en fait, comme c'était les hommes qui commettaient les attentats, judiciairement parlant, je vois les dossiers qui sont en préparation.
Ils n'ont pas fait appel. Les
femmes ont commis assez peu de choses.
Donc vous pensez qu'elle sera dehors
dans moins de 10 ans. Dans les dernières affaires, il y a eu très peu d'appels par rapport aux condamnations qui n'étaient pas des condamnations extraordinaire parce que les dossiers n'étaient pas très remplis. La réalité, elle est là.
Sommes-nous d'accord que la vraie question est là, Jean Messia?
Bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, les familles de ces femmes djihadistes et de ces familles djihadistes avaient d'abord sollicité les tribunaux administratifs qui avaient jugé qu'ils étaient incompétents pour donner un avis juridique sur la question, en disant c'est effectivement une raison d'État. Donc il appartenait à l'exécutif, au gouvernement, de décider d'une doctrine de rapatriement. C'est pour ça qu'en fait, la CEDH est intervenue dans le jeu. Mais en réalité, là, il ne s'agit pas de droit, puisque tout ce qui a été dit à l'instant par Gilles-William Golnadel est parfaitement exact. Il ne s'agit pas de droit, parce que si vous laissez le droit faire, elles ne risquent quasiment rien, ces femmes. Alors même qu'on sait très bien que parmi elles, il y en a même de plus sauvages que les hommes et de plus féroces que les hommes.
Si on se résume, elle pourrait se retrouver en liberté en étant sur notre sol.
Et exactement. D'ailleurs, le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas non plus les moyens de les surveiller. Quand on pense que l'imam Iqüissen, qui soi-disant était surveillé et s'est enfui au nez et à la barbe de notre pouvoir, je veux dire, qui peut imaginer un seul instant que la France a les moyens de suivre à la fois les enfants dans le cadre de la petite enfance qui est déjà débordée, les femmes dans le cadre du fichage S
par des services de renseignement et de sécurité qui sont déjà débordés et qui ne risquent pas la prison, puisque même les djihadistes qui ont été condamnés pour avoir rejoint la Syrie, beaucoup ont été libérés et on continue à le faire au bout de quelques années. Donc elles ne risquent strictement rien. J'ose imaginer, et je terminerai par ça, imaginer les injonctions de la CEDH s'il s'était agi de femmes néo-nazies qui avaient rejoint un État suprémaciste blanc et qui voudraient revenir en France. Je vous laisse imaginer que la CEDH n'aurait pas exactement le même avis sur la question.
Jean-Michel Fauvergue.
C'est chaud. Oui, l'ensemble de cette affaire est choquante à plusieurs niveaux. Elle est choquante parce que on a en face de nous des combattantes, des vraies combattantes, et qui n'ont pas renoncé à faire le djihad, qui sont parties. Et on a quand même, au niveau humain, une responsabilité. Au niveau personnel, quand on fait un combat, on prend sa responsabilité jusqu'au bout. Et on ne demande pas à revenir dans le pays où on a porté le fer et le feu. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, moi, qui me semble importante, c'est que c'est vrai qu'en faisant revenir des personnes comme ça, qui sont susceptibles de faire un attentat, qui n'auront pas grand-chose au niveau judiciaire, comme disait Golnadel, qui n'auront pas grand-chose parce qu'il va falloir prouver ce qu'elles ont fait, elles ne vont pas parler, alors elles seront condamnées sans doute, il va y avoir du sursis, elles seront dans 5 ans, elles sont dehors, elles peuvent fomenter un nouvel attentat, et on n'a pas les moyens de se donner de nouvelles cibles de ce type-là, autant qu'elles restent là-bas sur le territoire. Ça, c'est la deuxième chose qui me choque. Et la troisième chose qui me choque, c'est qu'on est en train de glisser lentement de notre état de droit. Notre état de droit est un état de droit collectif, et on est en train de glisser vers un état de droit individuel. On défend plus des individus qui, en général, sont des criminels, des assassins, des terroristes, des bandits, plutôt que de se défendre en bétonnant
contre une idéologie.
Notre état de droit et en aidant les personnes qui sont sur notre territoire. Et dernière chose qui semble importante, c'est la CEDH. La CEDH, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'Europe des 27. C'est l'Europe de 47 pays. Ouais. Et à la CEDH, vous avez des juges azerbaïdjanais, des juges turcs. Jusqu'au milieu de l'année dernière, il y avait des juges russes, maintenant ils sont partis, qui viennent nous donner des leçons de droit. Alors heureusement que cet arrêt de la CEDH n'est pas immédiatement applicable.
Ludovine de la Rochère, ce sera le dernier mot, parce que malheureusement, on touche à la fin de l'émission.
Alors effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'est appuyée sur le droit pour toute personne de rentrer dans son pays. Et effectivement, c'est un droit qui, pendant le Covid, a été très important. Quelles qu'aient été les circonstances, quoi qu'il arrive, on peut rentrer chez soi. On peut se poser néanmoins la question de savoir si ces femmes sont vraiment françaises, puisqu'on se demande si elles aiment la France, elles aiment le mode de vie français, elles aiment nos concitoyens. On peut avoir de légers doutes. Alors après, j'entends que sur le plan judiciaire, certains disent « mais elles n'ont rien commis, mais elles sont complices dans l'idéologie, en tout cas, puisqu'elles sont parties pour le djihad. Elles vont vraisemblablement élever leurs enfants dans la même idéologie.
À minima, il y aura un prosélytisme politique.
Et en cela, il y a une culpabilité et une forme de complicité.
Mais elles ne seront pas condamnées à la hauteur de leur dangerosité, c'est ça le problème.
Et elles élèveront leurs enfants dans la même idéologie. Alors, la CEDH, néanmoins, la France peut faire appel. Elle ne le fait jamais et elle doit savoir faire appel et se défendre de ce type de décision de la CEDH.
Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi sur ce plateau. Dans un instant, ce sera Laurence Ferrari que vous retrouverez pour Punchline. Je vous dis excellente soirée sur après-midi déjà, sur notre antenne, puis soirée, et à demain pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Merci.